Ne vous est-il jamais arrivé de vous demander où est-ce que vous en êtes dans votre marche chrétienne? Ne vous est-il jamais arrivé de vous demander où est-ce que vous en êtes dans votre marche chrétienne? Êtes-vous plutôt dans une bonne situation? Vous avez les bonnes chaussures et vous êtes en bonne forme pour continuer la marche? Tout en prenant soin d'éviter toute roche ou tout autre danger prêt à vous faire tomber? Ou êtes-vous plutôt en train de récupérer d'une chute, justement? Êtes-vous en train alors de reprendre la marche après un faux pas? Ou alors, et Dieu en soit loué, vous n'êtes même plus en train de marcher, mais de courir? Tellement votre santé spirituelle est alimentée par une vie de prière et d'œuvres bonnes à n'en plus finir. On aimerait bien, dans notre vie de chrétienne et de chrétien, avoir une espèce de jauge qui nous indique où on en est. Un peu comme dans nos voitures, pour nous informer de la température du moteur. Entre 70 degrés et 80 degrés, état stable, normal, on peut continuer la route sans problème. Entre 80 et 90 degrés, il n'y a pas encore de problème, mais on va continuer à garder un œil sur l'évolution de la chose. Entre 90, 100 degrés et plus, là, on sait qu'il faut faire quelque chose avant que l'on ne se retrouve embué par la fumée d'un moteur en surchauffe. On aimerait bien, dans notre vie de chrétien, avoir une jauge pour savoir où l'on en est exactement. Eh bien, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que nous possédons à l'intérieur de nous-mêmes une telle jauge. Avec elle, il est très facile de savoir où l'on en est. Pas besoin même d'y faire trop attention, mais en y faisant attention tout de même, elle nous indique clairement où on en est. Dans un état d'exaltation, pas très exalté, pas très discipliné au contraire, en bonne voie, récupérant des forces, etc., etc. C'est une jauge tellement précise que même les autres autour de nous peuvent avoir un aperçu clair et immédiat de notre santé spirituelle, de notre marche chrétienne. Ça, c'est pour la bonne nouvelle. Nous possédons une telle jauge capable de dire tout cela. Et pour la mauvaise nouvelle? Eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est que cette jauge dont nous parlons maintenant n'est pas une jauge ordinaire équipée d'une aiguille qui monte ou qui descend. Cette jauge dont nous parlons est un organe de notre corps. C'est un organe dont il nous faut combattre les effets pervers. Un organe puissant, un organe infernal, un organe double, j'ai nommé notre langue. Tout à fait. Et celui qui dans la Bible en parle le mieux, après l'auteur du livre aux Proverbes, c'est encore l'apôtre Jacques, au chapitre 3, et je nous invite à découvrir ce texte ensemble. L'épître de Jacques, au chapitre 3, les 12 premiers versets. Épître de Jacques, chapitre 3, 12 premiers versets. Et je lis, si vous le voulez bien, dans la version français courant. Jacques, chapitre 3. Mes frères, ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants, car vous savez que nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement que les autres. Nous commettons tous des erreurs de bien des manières. Si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, c'est un homme parfait, capable de maîtriser tout son être. Nous mettons un mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, et nous pouvons ainsi diriger leur corps tout entier. Ou bien pensez aux navires. Même s'ils sont très grands et que des vents violents les poussent, on les dirige avec un très petit gouvernail, et ils vont là où le pilote le veut. De même, la langue est une très petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause d'effets considérables. Pensez au petit feu qui suffit à mettre en flamme une grande forêt. Eh bien, la langue est pareille à un feu. C'est un monde de mal installé dans notre corps. Elle infecte notre être entier. Elle enflamme tout le cours de notre existence d'un feu provenant de l'enfer même. L'être humain est capable de dompter toute espèce de bête sauvage, d'oiseaux, de reptiles et de poissons, et en fait, il les a domptés. Mais personne n'a jamais pu dompter la langue. Elle est mauvaise et sans cesse en mouvement. Elle est pleine d'un poison mortel. Nous l'utilisons pour louer le Seigneur, notre Père, mais aussi pour maudire les êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance. Des paroles de louange ou de malédiction sortent de la même bouche. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Aucune source ne donne par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. Aucun figuier, mes frères, ne peut produire des olives. Aucune vigne ne peut produire des figues. Une source d'eau salée ne peut pas donner de l'eau douce. Vous l'avez bien compris, l'apôtre Jacques parle ici de la langue et de son pouvoir lorsqu'il n'est pas contrôlé. Il en parle d'une manière tout à fait générale, mais il le fait à travers d'une toute petite introduction particulière que sont les versets 1 et 2. Je relis. Mes frères, ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants, car vous savez que nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement que les autres. Nous commettons tous des erreurs de bien des manières. Si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, c'est un homme parfait, capable de maîtriser tout son être. Alors pourquoi une telle introduction ? Il semble que le contexte dans lequel écrit Jacques est un contexte où quelques chrétiens sont attirés par le ministère d'enseignement. Quelques chrétiens sont attirés par le ministère d'enseignement. Et il faut savoir qu'à l'époque de Jacques, il y avait une certaine autorité, et même plus, un certain prestige attaché à ce ministère de transmission de la doctrine chrétienne. Mais afin qu'il n'y ait pas trop de personnes voulant se lancer dans la tâche pour de mauvaises raisons, et c'est le cas puisque dans la suite de l'épître, il est question de ceux qui sont jaloux et de ceux qui se croient sages mais qui en vérité ne le sont pas, eh bien à cause de cela, Jacques donne tout de même un avertissement. Être enseignant, c'est bien, c'est très bien même. Mais attention, nous sommes jugés plus sévèrement à cause de la responsabilité qui s'attache à ce ministère. C'est un ministère important, on ne peut pas dire n'importe quoi. L'enseignant s'expose à un plus grand danger de jugement parce que l'outil principal de son ministère est aussi la partie du corps la plus difficile à contrôler, la langue. En effet, le prédicateur, l'enseignant, est appelé à parler. Le prédicateur, l'enseignant, est appelé à dire la foi. Mais en même temps qu'il affirme cela, et heureusement pour nous, Jacques souligne aussi que de toute façon, nous bronchons, trébuchons, péchons, bref, nous commettons tous des erreurs, et ceci de bien des manières. Ceci dit, et c'est la raison de mon introduction sur la langue comme la jauge de notre santé spirituelle, de notre marche chrétienne, si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, c'est un homme parfait et capable de maîtriser tout son être. Jacques est en fait en train de dire que la langue est tellement difficile à contrôler, tellement difficile à maîtriser, que celui ou celle qui parvient à dompter sa langue est quelqu'un qui est capable de maîtriser tout le reste de sa personne. Jacques est en train de dire que si vous parvenez à contrôler votre langue, jour après jour, vous pouvez beaucoup plus aisément parvenir à maîtriser le reste des membres de votre corps. Un homme ou une femme qui arrive à bien gérer sa langue, c'est un homme ou une femme qui peut parvenir au self-control, une maîtrise de soi dans les situations les plus délicates. Et c'est une expression bien courante que celle d'Aristote, que de dire en fait, qui peut le plus, peut le moins. Qui peut le plus, peut le moins. Eh bien, c'est exactement la même chose ici, dans le texte de Jacques. Si mon frère, ma sœur, tu arrives à maîtriser ta langue, lui faire faire 7 fois le tour de ta bouche avant de parler, eh bien, j'ai le plaisir de t'annoncer que tu as la capacité de faire de grandes choses. C'est donc après cette introduction particulière, après avoir averti ses contemporains du danger de l'enseignement à cause de la langue, que Jacques passe maintenant à un enseignement général, un enseignement pour le tout un chacun. Et il m'a semblé qu'il était possible de dégager 3 idées de ce texte. La langue étant à la fois un organe puissant, un organe infernal et un organe double. Un organe puissant tout d'abord. Relisons ensemble les versets 3 à 5. Verset 3. Nous mettons à mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, et nous pouvons ainsi diriger leur corps tout entier. Ou bien pensez aux navires, même s'ils sont très grands et que des vents violents les poussent, on les dirige avec un très petit gouvernail, et ils vont là où le pilote le veut. De même, la langue est une très petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause d'effets considérables. Pensez au petit feu qui suffit à mettre en flamme une grande forêt. Jacques est en train d'utiliser une série d'illustrations qui sont déjà connues de ses auditeurs. L'image du mort dans la bouche du cheval, du gouvernail pour le navire, ne sont pas des illustrations de Jacques lui-même, mais ce sont des illustrations qu'il reprend de philosophes, ou bien même de poètes, avant lui. Peut-être par contre, ça je ne le sais pas, innove-t-il concernant la langue. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut comprendre là, c'est que si le mort et le gouvernail, aussi petits qu'ils sont face au cheval et au navire, parviennent à les diriger, à les contrôler, à les conduire, à les orienter, eh bien de la même manière, la langue peut diriger, orienter, et conduire toute notre vie. Alors je vous accorde que ce n'est pas forcément une idée facile à intégrer, c'est peut-être pas une idée qu'on entend tous les jours ou sur laquelle on médite tous les jours, mais il n'empêche que si le chrétien exerce un contrôle efficace sur sa langue, il est capable du même coup de diriger toute sa vie selon les voies divines. Il est l'homme parfait du verset 2 dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais ce qui est censé frapper le lecteur avec plus de force, ou l'auditeur avec plus de force, c'est la répétition des adjectifs utilisés. Pensez aux navires, même s'ils sont très grand, on les dirige avec un très petit gouvernail. De même, la langue est une très petite partie du corps, mais elle peut se vanter de grandes choses, littéralement. Et puis surtout, la fin du verset 5, où Jacques dit « Pensez au petit feu qui suffit à mettre en flamme une grande forêt. » Alors dans cette phrase, on ne peut pas le voir en français, mais c'est le même mot qui est utilisé pour dire à la fois « grand » et « petit ». Tout simplement parce que ce mot, « hélikos », est un mot qui vise l'excès. C'est un mot qui vise l'excès dans les deux sens. Le petit dans sa petitesse et le grand dans sa grandeur. D'où la puissance de cet organe qu'est la langue, à la fois si petit, mais si capable d'être la cause d'effets considérables, comme le traduit la Bible en français courant. Je me demande, devant vous, si nous nous rendons toujours compte, bien compte des effets dévastateurs que peuvent avoir les mots, M-O-T-S, dans notre vie, et donc dans la vie de nos contemporains, de notre prochain, avec qui nous entrons en dialogue. Alors c'est quelque chose que je ne souhaite à aucun d'entre vous, mais pensez un instant à la dernière fois où vous avez reçu un coup de la part de quelqu'un, que ce soit volontaire ou même involontaire. Cela vous a très certainement fait mal, vous avez été blessé. Peut-être même avez-vous eu des bleus, des hématomes, ou une fracture peut-être. Alors je sais que c'est un peu glauque, mais c'est justement pour illustrer le propos. Et je redis encore que je ne souhaite à personne d'avoir été la victime de ce genre de choses. Mais pensez donc au coup dont vous avez été la victime dans votre vie. Pensez maintenant, un instant, à des mots, M-O-T-S cette fois, des phrases qui vous ont été dites dans votre vie et qui vous ont blessé. Faites maintenant la comparaison entre ces deux types de blessures qui vous ont été infligées. Qu'en concluez-vous? La plupart du temps, ce que nous pouvons conclure de la comparaison entre les blessures physiques que nous subissons et les blessures verbales, si je puis dire, que nous subissons également, c'est que les bleus, les fractures physiques, disparaissent, guérissent. Tandis que les blessures suite aux injures, aux reproches, aux fausses rumeurs dont nous avons été l'objet, aux critiques, disparaissent bien plus difficilement lorsqu'elles disparaissent et guérissent bien plus lentement lorsqu'elles guérissent. On a alors envie de dire, de concert avec l'apôtre Jacques, que la langue est une arme de destruction massive. Alors ça peut peut-être un peu nous faire sourire, mais il faut tout de même que l'on soit conscient de cela. La langue est pareille à un feu, dit Jacques, au verset 6. Si aujourd'hui on peut tuer avec des armes à feu, n'oublions pas que nous pouvons tuer avec les mots. Et c'est ainsi que le chantait Mireille Mathieu, la violence. Celle qui tue avec les mots, M-O-T-S. La langue est un petit organe, mais un organe puissant. Il convient de le maîtriser afin de ne pas le regretter. Afin de ne pas défrayer la chronique, comme ce jeune collégien qui, l'an passé, prétendait avoir reçu un coup de poing de la part de l'un de ses professeurs. Sauf que ce collégien avait menti. Quant au professeur, il s'est suicidé peu après sa garde à vue. Il est établi, je cite, que les faits allégués sont inexacts, a indiqué le procureur dans un communiqué. Tout au plus, le professeur a-t-il empoigné le menton de l'élève avec une certaine rudesse pour lui faire relever la tête, provoquant une douleur et un saignement au niveau d'une dent cariée et cassée de l'élève. Mais le professeur ne lui a porté ni un coup de poing, ni même une gifle, et ne lui a pas cassé une dent, a-t-il encore assuré. Alors certes, ce professeur était en pleine crise de divorce, et il avait même annoncé qu'il voulait mettre fin à ses jours, mais voyez tout de même ce pouvoir puissant de la langue, qui finalement a accéléré les choses par ce mensonge de ce jeune collégien. Le pouvoir puissant de la langue qui a accéléré les choses et qui même les a rendues irrémédiables. La langue est un petit organe, mais un organe puissant. Un organe que Jacques compare à un feu alimenté par le feu même de l'enfer. Et c'est là notre deuxième point, un organe infernal. Relisons les versets 6 à 9. Eh bien, la langue est pareille à un feu. C'est un monde de mal installé dans notre corps. Elle infecte dans notre être entier. Elle enflamme tout le cours de notre existence d'un feu provenant de l'enfer même. L'être humain est capable de dompter toute espèce de bête sauvage, d'oiseaux, de reptiles et de poissons. Et en fait, il les a domptés. Mais personne n'a jamais pu dompter la langue. Elle est mauvaise et sans cesse en mouvement. Elle est pleine d'un poison mortel. Voilà un texte qui se durcit. On ne se trouve plus dans le registre de la langue un organe petit mais costaud, mais bien dans la description catastrophique, infernale de cet organe. Les mots qui sont employés par Jacques sont extrêmement forts et extrêmement violents. Pour Jacques, la langue contient en elle-même les péchés du monde déchu. C'est ce qu'il vise en disant qu'elle est un monde de mal installé dans notre corps. Jean Calvin disait à son époque que la langue est une minuscule partie de chair qui contient le monde entier de l'iniquité. Ce sont des affirmations très fortes, mais on se souvient aussi que Jésus lui-même n'y était pas allé de main morte non plus avec cette idée. Jésus appela la foule et dit à tous, « Écoutez et comprenez ceci. » Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'un homme qui le rend impur, mais ce qui sort de sa bouche, voilà ce qui le rend impur. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche de quelqu'un passe dans son ventre et sort ensuite de son corps? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Car de son cœur viennent les mauvaises pensées qui le poussent à tuer, à commettre l'adultère, vivre dans l'immoralité, voler, prononcer de faux témoignages et dire du mal des autres. Voilà ce qui rend impur. Alors, puisque la bouche, comme le dit Jésus, la langue, comme le dit Jacques, est révélatrice de ce qui est dans le cœur, alors oui, effectivement, notre langue est notre jauge de santé spirituelle. Et cette langue, si nous ne la contrôlons pas, est aussi puissante que le feu de l'enfer. C'est une image un peu complexe, mais il faut là comprendre qu'elle consume et dévaste toujours davantage. L'enfer, littéralement, la Géhenne, était le mot qui en hébreu désignait une vallée, considérée comme une décharge publique, qui brûlait sans jamais discontinuer. L'enfer, C'était cette vallée considérée comme une décharge publique qui brûlait sans jamais discontinuer. L'image est donc plus que parlante. Elle nous invite à considérer de nouveau le travail de maîtrise de notre langue auquel il nous faut nous adonner, sans quoi notre langue continuera son œuvre de consommation et de dévastation autour de nous. Soyons donc plus sérieux et plus alarmés que Dave, le chanteur, qui certainement avec une dose d'humour déclarait ceci: je parle cinq langues. Je parle cinq langues, dont la langue de vipère. Ne soyons pas de ceux qui acceptent cette fatalité de l'emprise et du pouvoir du mensonge facile, de la prétention arrogante, du commérage, des rumeurs gratuitement commencées ou continuées, etc. Car ce sont toutes des choses que la Bible condamne. Et si vous êtes dans l'une ou l'autre situation que je viens de mentionner, voici pour vous quelques versets frigos. Les versets frigos, j'appelle ce genre de versets les versets que l'on pourrait placarder sur son frigidaire. Au moins comme ça, on pourrait les méditer au moins trois fois par jour. Donc je vous donne quelques versets frigos. Proverbe 12, verset 18. Qui bavarde à la légère blesse autant qu'une épée. Qui bavarde à la légère blesse autant qu'une épée. Proverbe 12, verset 19, un verset après. Une affirmation vraie reste toujours valable, mais les mensonges ne tiennent qu'un instant. Celui qui parle à tort et à travers court à sa perte. Proverbe 10, verset 8. Et puis enfin, les propos de l'Ecclésiaste au chapitre 5, versets 1 et 2. Plus on parle, plus on risque de prononcer des propos irréfléchis. Ecclésiaste 5. Plus on parle, plus on risque de prononcer des propos irréfléchis. Vous voyez comme ces choses sont actuelles? Et j'ai envie de nous dire aussi, pour que nous fassions attention à cela, qu'il y a des lieux. Il y a des lieux qui, comme sur notre lieu de travail, votre lieu de travail peut-être, peuvent être des lieux où la tentation n'est que plus grande pour un usage malsain de notre langue. Le réfectoire ou la cafette, si vous mangez avec vos collègues. Tout endroit où se trouve une machine à café. Tout endroit où se trouve une machine à café. Si vous êtes enseignant, la salle des professeurs. Ou peut-être les vestiaires, s'il y en a sur votre lieu de travail, qui accueillent vos pensées du matin en arrivant au boulot et qui reçoivent vos médisances sur les collègues ou les patients après une journée bien chargée. Alors le lecteur attentif me dira: oui, mais Kevin, dans le texte, il est dit qu'aucun homme, malgré les capacités de domptage données à l'être humain, aucun homme n'a pu dompter cette langue tellement mauvaise et tellement sans cesse en mouvement. Oui, c'est vrai. Aucun homme sans le secours de Dieu ne peut le faire. Mais par la pensée de Jacques, nous sommes invités à faire tout ce qui est en notre pouvoir, et par la grâce et le secours de Dieu, à ne pas laisser le poison mortel de la langue se répandre autour de nous. Enfin, mais pas du moindre, la dernière accusation contre la langue est le fait qu'elle soit un organe double. Si les deux premières accusations contre la langue concernaient de manière très globale toute femme et tout homme de la planète entière, eh bien cette dernière accusation concerne spécifiquement les chrétiennes et les chrétiens que nous sommes. D'où la gravité de ce passage. Jacques souligne notre incohérence et la difficulté réelle qu'est la nôtre. Et je me suis dit, quelque part, ce qui peut être encourageant, entre guillemets, c'est le fait que Jacques s'inclut lui-même dans ce raisonnement. Ça rend les choses un peu moins rudes. Il parle au nous tout d'un coup. Ça rend les choses un peu moins rudes et empreintes de réalisme. Parce qu'au final, nous bronchons, nous commettons tous des erreurs. Et ceci de bien des manières. Alors pour ce passage, je n'ai pas envie d'aller trop dans le commentaire. Pourquoi ? Parce qu'on vit tellement les choses, ces choses-là, de manière réelle, de manière quotidienne. Bénir Dieu et par la même bouche, maudire les hommes. C'est tellement clair dans nos vies que ça se passe de commentaires. On est ici dans le constat de notre incapacité à remplir la loi royale. Aime ton prochain comme toi-même. Et en le faisant, on passe aussi à côté du « aime ton Dieu » de toute ta force, de toute ta pensée, etc. Car en maudissant les hommes créés à l'image de Dieu, il faut le dire, c'est aussi Dieu que nous offensons. Et peut-être même maudissons indirectement. Je me rappelle qu'à Thonon, il y a quelques années, Marie-Julie avait eu l'occasion de prêcher sur ce passage. Justement, elle nous confiait quelque part sa tristesse face aux disputes de famille qui avaient lieu juste avant ou parfois juste après les chants de bénédiction pour rendre grâce à Dieu avant de passer à table. Nous sommes prompts à chanter, prompts à remercier le Seigneur, mais nous sommes aussi prompts à nous chamailler et à faire mauvais usage de notre langue. Résultat de cela, plus personne ne chante plus à table pour rendre grâce à Dieu. Mais c'est l'inverse que Dieu attendait. Dieu attendait que plus personne ne se chamaille de la sorte. J'aimerais terminer en disant ceci. Les choses ne sont pas aisées. C'est un texte qui nous révèle encore une fois les défis qui sont les nôtres. Et après avoir écouté, médité à la fois ce texte et puis ce message, on pourrait avoir envie de s'extraire complètement du monde. On pourrait avoir envie de s'extraire complètement du monde et de ne plus du tout ouvrir la bouche afin de ne pas pécher par ce biais. Mais Dieu ne nous appelle pas à cela. Comme bien souvent, le Seigneur nous appelle aux choses les plus difficiles. Peut-être à son image, lui-même a fait quelque chose de difficile pour nous. Dieu ne veut pas que nous fermions notre bouche. Dieu veut que nous parlions quand même. Dieu veut que nous parlions bien, car il veut jour après jour changer notre cœur, de façon aussi à ce que nos paroles, comme le dit l'apôtre Paul, soient utiles, répondent à un besoin et encouragent autrui pour faire du bien à ceux qui nous entendent. Dieu veut changer notre cœur jour après jour, de façon aussi à ce que nos paroles soient utiles, répondent à un besoin et encouragent autrui pour faire du bien à ceux qui nous entendent. Vous voulez savoir où vous en êtes dans votre vie chrétienne ? Eh bien, ouvrez votre bouche et votre langue vous dira tout. Alors que Dieu vous vienne en aide, que Dieu nous vienne en aide. Amen.